Voilà, et j'aimerais vous inviter à ouvrir dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 23. Un premier verset, puis après nous irons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, un deuxième verset. J'ai prié. Comment ? Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu et qui n'étaient pas attentifs. Romains chapitre 14, verset 23. Et j'ai donc prié pour ces moments. C'est toujours difficile de savoir ce qu'on doit prêcher chaque dimanche, chaque réunion, et notamment la dernière. Et Dieu m'a mis dans un temps de prière un mot que j'aimerais partager avec vous. C'est le mot conviction, et donc dans Romains chapitre 14 verset 23, il est dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Et puis dans Jean chapitre 16 verset 8, il est dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement ». Amen. Nous devons être et nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Amen. Non pas une conviction charnelle, non pas une conviction religieuse, non pas une conviction qui serait propre à notre personnalité, à notre propre pensée, mais une conviction divine du Saint-Esprit. Amen. Et cette conviction-là, elle vient sur notre cœur parce que quand notre cœur s'ouvre, et quand elle vient sur notre cœur, on ne peut pas l'enlever. Elle est ancrée. On parle de conviction ancrée dans notre âme. Amen. Et si nous avons cette conviction qui vient du Saint-Esprit, alors nous sommes sûrs d'une chose, nous sommes sûrs du salut et nous pouvons aller jusqu'au bout du plan que Dieu nous a préparé pour nos vies. Amen. On parle de conviction intime, de conviction profonde, de conviction bien ancrée, de force, de conviction, de se battre pour ses convictions. Et j'aimerais dire que les convictions sont à double tranchant. Certains sont bonnes et amènent la paix, et certains amènent la violence et la haine. Certains sont remplis de convictions, mais qui ne sont pas du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'elles produisent ? Elles produisent la guerre, elles produisent la persécution, elles produisent le meurtre, elles produisent le terrorisme. Mais nous, nous sommes convaincus de l'amour de Dieu. Et nous sommes convaincus que Dieu aime tous les hommes. Amen. Et le produit, le fruit de cette conviction amène la joie, l'amour, la paix. Alléluia. Une conviction, c'est très fort et très puissant. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une certitude. Amen. La définition du Larousse, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement que la chose va se produire. Cette conviction qu'on va arriver jusqu'au bout. C'est une croyance ferme. Et nous avons toutes sortes de convictions dans nos vies. Et d'autre part, on pourrait dire que nos convictions nous amènent à faire les choses pleinement, d'aller vraiment au bout. Et la Bible parle justement de pleine conviction, non pas d'une simple conviction, mais de pleine conviction. Si je suis sûr que j'aurai assez d'essence, je vais arriver jusqu'au bout. Oui ? Cette conviction que j'aurai assez de carburant. Le mot grec pour conviction, c'est plérophoréo. Plérophoréo, vous vous en rappellerez ? Il a plusieurs sens, et notamment le sens de plein, et le sens d'aller jusqu'au bout, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est quand on est certain que la chose va se produire, on va jusqu'au bout de cette chose. Amen. Et vous allez voir comment on retrouve ce terme plérophoréo dans certains textes que nous allons aborder, et on retrouve ces deux notions. Ce mot se retrouve d'abord dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4. Donc on a lu le chapitre 14, et là, j'aimerais vous inviter à revenir sur le chapitre 4. Le chapitre 4, il est question au verset 21 de cette pleine conviction. Paul s'adresse aux Romains. Et il parle d'Abraham, il dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Amen. Abraham était un homme de conviction parce qu'il a cru pleinement dans ce que Dieu lui avait dit. Amen. Je lis un petit peu en arrière, au verset 1er, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Il est donc question ici, non pas d'une simple conviction, mais d'une pleine conviction qui nous amène à réaliser les promesses divines sur nos vies. Autrement dit, sans une pleine conviction, on ne peut pas hériter des promesses de Dieu. On peut parler de la pleine conviction de la foi. Et la conviction, c'est la foi. C'est vraiment de croire fermement que ce que Dieu dit va arriver. Et Abraham a cru, alors qu'il avait 100 ans, alors que Sarah avait 90 ans. Bien sûr, il y a eu le doute, mais Abraham a eu cette conviction que Dieu allait réaliser la promesse. Et la promesse s'est accomplie en la personne d'Isaac, le fils de la promesse, le fruit de la conviction divine, de la pleine conviction. Malgré le temps qui a passé, malgré la vue humaine que la chose serait impossible, ce qui a permis de tenir à Abraham, c'est la conviction que Dieu allait accomplir la promesse. Pour Abraham, c'est qu'il irait dans le pays promis, c'est qu'il ferait une alliance avec Dieu et qu'il serait père d'une multitude. Et pour nous, c'est quoi une pleine conviction ? Romains chapitre 4, verset 24, c'est un petit peu plus loin, c'est toujours dans le même chapitre. Et Paul s'adresse aux Romains encore, « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Qu'est-ce que doit être notre conviction à nous ? Quelle est votre pleine conviction pour nous, les chrétiens ? Amen. Que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité et que Jésus nous a justifiés de nos offenses et de nos péchés. Amen. Paul explique cela en parallèle avec Abraham pour nous dire que nous aussi nous pouvons avoir cette pleine conviction de la justification de nos péchés. Amen. Et ça c'est important. Que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Est-ce que vous le croyez ? Que Jésus est mort pour nos péchés et que nous sommes en Jésus justifiés et sanctifiés. Nous devons avoir une pleine conviction de cela. Paul rappelle cela aux Romains pour expliquer qu'il n'y a plus de circoncis ou d'incirconcis. Mais il n'y a que et seulement des personnes convaincues ou non de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Il n'y a plus de juifs ni grecs. Il n'y a plus de hommes ni femmes. Mais il n'y a que des gens convaincus ou non de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Amen. Et si nous sommes là, c'est que nous sommes pleinement convaincus. Et si tu es là ce matin, que tu n'es pas pleinement convaincu de cela, alors il n'est pas trop tard pour recevoir cette conviction de Dieu. Que Dieu t'aime et que Jésus s'est livré à la croix pour le pardon de tes péchés. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette conviction que nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Toujours dans le chapitre 4, Paul cite David dans le psaume 32. « Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme qui a le Seigneur, à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Romains chapitre 4, versets 7 à 8. Heureux celui qui a la conviction qu'il est pardonné. Et ce psaume écrit par David est écrit par David après son adultère avec Bathsheba. Après le meurtre du mari de Bathsheba. Après cet adultère. Et malgré la gravité de la faute, il est pleinement persuadé du pardon de ses péchés. Il a cette conviction que Jésus, que Dieu l'a pardonné. Malgré ce meurtre, malgré cet adultère. Et toi, as-tu cette pleine conviction? C'est important ça. David était un homme de conviction divine. Comme il a été convaincu du pardon de ses péchés, il a été convaincu aussi lorsque il se retrouve face à Saül qu'il peut l'achever, qu'il peut mettre un terme à cette guerre entre lui et Saül et qu'il peut être tranquille. Il a cette conviction qu'il ne doit pas toucher un cheveu de Saül. Les convictions qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. La conviction vient du cœur et elle touche la conscience. Et trahir sa conscience, c'est trahir ses convictions. Et si cette conviction vient du Saint-Esprit, alors on peut attrister le Saint-Esprit. Job aussi avait une conviction. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, Il y a tout qui s'est effondré dans sa vie, ses biens, sa famille, il a tout perdu, il a perdu la santé. Mais ce qui lui a permis de tenir, c'est une conviction. Je sais que mon Rédempteur, ce qui nous permet de continuer la marche quoi qu'il arrive, c'est cette conviction que notre Rédempteur est vivant, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos fautes et qu'il nous sauvera. Amen. La pleine conviction du salut, la pleine conviction que nous avons un sauveur merveilleux. Nous ne méritons rien, mais il nous pardonne, il nous sauve, il prend soin de nous. On retrouve donc ce mot que je ne répéterai pas. Donc pour le salut, cette conviction. Et puis on retrouve ce mot. Et ce sera peut-être la partie plus personnelle de ce message ce matin. Concernant le ministère. J'allais dire, Dieu sait qu'il faut que nous soyons convaincus pour entrer dans le ministère. Quelqu'un a dit, quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. On retrouve ce terme donc, dans le deuxième épître de Paul à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et le mot rempli, c'est le mot conviction. C'est le mot plérophoréo. Autrement dit, Paul dit à Timothée, et on peut se remettre dans le contexte de cette lettre, Paul est dans une prison à Rome et les conditions de sa détention ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Il est sous l'autorité de Néron, le persécuteur de l'Église. Et donc dans ces 4-5 dernières années, dans cette prison froide, il n'a plus les mêmes conditions, il ne voit plus personne. Et c'est dans ce cadre-là qu'il dit « Tous m'ont abandonné, il n'y a plus personne qui vient le voir parce qu'on risque la persécution, on risque la mort, on risque l'emprisonnement aussi. » Il est tout seul, mais il va écrire cette lettre à Timothée et il dit « Remplis bien ton ministère, sois convaincu de ton appel. » Si tu es convaincu de l'œuvre de Dieu, alors tu vas aller jusqu'au bout. Et nous verrons après ce qu'il va dire également concernant son propre ministère. Et là, on retrouve encore le mot « conviction ». Cette conviction forte et puissante que c'est la volonté de Dieu, que Dieu nous dirige dans ce domaine-là, et c'est ça qui nous tient. Nous avons besoin de ces convictions pour aller jusqu'au bout du plan de Dieu. Amen. Non pas de cette conviction charnelle, mais cette conviction du Saint-Esprit. C'est cette parole qui vient dire à notre cœur, c'est là la direction. Remplis bien ton ministère. Pour ma part à Gap et surtout à Vennes, je peux dire que j'ai bien rempli mon ministère. Je me suis pesé encore ce matin. Ça fait que augmenter. C'est incroyable. J'ai beau aller courir, mais ça marche pas. Sans plaisanter, sans conviction, je crois que je n'aurais pas pu accomplir quoi que ce soit de bon, quoi que ce soit de spirituel. Bien sûr que nous sommes des hommes et on aimerait être tellement tout le temps comme Jésus. On aimerait être parfait dans tous les domaines. Mais si on n'a pas cette conviction que Dieu nous a voulu, nous a choisi, que Dieu nous a voulu là, alors on ne peut rien accomplir. On n'a aucune force, aucune puissance. On peut abandonner facilement, on peut avoir peur. Mais quand on sait que Dieu nous veut là, alors on est rassuré et on accomplit l'œuvre de Dieu. Je me souviens alors que j'étais encore dans le travail. J'étais pas encore ici à Gap, à la Sainte-sur-Mer. Et puis, il était question que je vienne ici. Je n'étais pas encore venu une seule fois. Et Stéphane m'avait appelé, je me souviens que je m'étais mis dans une autre pièce, et il m'avait dit, voilà, bon, t'inquiète pas, bon, il y a du changement, tu viens toujours à Gap, mais au lieu de remplacer Philippe, tu vas remplacer Philippe et tu vas remplacer Christophe. Au lieu d'être trois ministères, on sera deux ministères. Ah oui. Et ce qui est étonnant, c'est que j'avais une certaine appréhension de venir alors qu'on ne se connaissait pas, etc. Même en remplaçant qu'un seul ministère, en étant trois finalement. Et quand Stéphane m'a dit, ben finalement on n'est pas trois, on est deux. Donc forcément il y aura plus de charges, il y aura plus de travail. Eh bien il y a comme une paix qui est venue sur mon cœur et une conviction que c'était ma place. C'est bizarre, hein? Mais la conviction, des fois, elle va pas avec la logique. La conviction de Dieu. Alors que je me sentais incapable, j'avais des appréhensions de remplacer un ministère, d'être trois, et maintenant, la conviction de Dieu, même si on est deux, ça m'a donné de la force. Ça n'a pas toujours été facile, évident. Mais je me suis appuyé sur cette conviction. Et je vous dois des explications, puisqu'aujourd'hui, nous dirigeons vers Jérusalem, et beaucoup nous ont dit, mais pourquoi vous partez? Pourquoi Israël? Et là aussi, il s'agit d'une conviction. À chaque fois que j'ai pas trouvé un autre mot que ce mot qui nous a conduit dans ce choix. C'est vraiment une conviction divine. On a fait un voyage il y a 2 ans avec Stéphane. C'était d'une manière improbable que ce voyage s'est présenté à nous. Nous avons organisé un voyage avec les jeunes et ça nous a conduit avec Jessie à retourner l'année dernière dans ce pays, à rencontrer la famille Elbaz. Je crois que j'ai vu Benjamin là tout à l'heure. Et à discuter. Et puis, le projet de venir à l'école biblique, c'était là aussi quelque chose d'improbable, de illogique, quant au parcours, quant au ministère, quant dans toutes sortes de domaines, familial, etc. Mais on y a réfléchi parce que le Saint-Esprit nous a mis une conviction, à Jessie et à moi. Et lorsqu'on était en vacances donc cette semaine-là, même Jessie pourra vous le dire, elle commençait à se projeter dans la ville, à regarder les trajets, etc. Alors que ce projet n'était pas encore sur notre cœur. Que déjà, il y avait une conviction qu'on habiterait là. Les convictions, c'est fort. Les convictions, c'est puissant. Et même si on a des convictions, on a besoin que ces convictions soient fortifiées. On a besoin que le Seigneur nous remette une couche pour être sûr. Et alors que certains le savent, mais peut-être tous ne le savent pas, mais alors qu'on était en train de discuter de cela, on disait voilà, ce serait bien, oui, si j'étais plus jeune, si on commençait le ministère, on aurait aimé faire cette école, elle a l'air très intéressante, etc. Et puis, papa de Benjamin nous dit, mais c'est encore possible. Alors là, on rigole, etc. Mais non, c'est pas possible, etc. Et la maman de Benjamin nous dit, regardez là-bas. Alors ça va vous faire sourire, mais c'est des choses qui nous ont convaincus que c'était la volonté de Dieu qu'on aille là-bas. Plus d'autres choses encore. Et on regarde, et il y avait une grue, une grande grue rouge. Et sur cette grue, il y avait une grande banderole, et il y avait marqué « Saez ». Au moment où on parle de ça, on relève les yeux, on voit une grue et on voit le nom Saez, avec à côté le drapeau français et le drapeau israélien. C'est fort quand même. Et plus d'autres choses que je pourrais vous dire en aparté, mais nous avons reçu vraiment la conviction que c'était notre direction. Que c'était le plan de Dieu d'aller là-bas. On a beaucoup d'inconnus. Je dirais même on a beaucoup d'inquiétudes, mais on n'y pense pas. Mais on va s'appuyer sur cette conviction. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait que c'est la volonté de Dieu. Une autre conviction est venue en même temps concernant le ministère. Et ça va vous concerner un peu plus. Une autre conviction, avant même que ce projet arrive, j'avais partagé à mon épouse, lorsque l'on partira, parce que bien sûr il fallait qu'un jour on parte, c'était prévu, c'est comme ça, ça serait bien que ce soit Étienne et Emmanuel, la famille Leroy, qui viennent à notre place à Vennes. Et on s'était dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas logique, parce que lui doit trouver un poste cette année, et que nous, il n'était pas question qu'on parte cette année, il était question qu'on parte l'année prochaine ou l'année d'après. Donc, c'était pas logique. Mais encore une fois, le Seigneur avait déjà tracé, avait déjà mis sur le cœur. Et lorsque ce changement, ce remplaçant s'est mis en place, eh bien, là aussi, j'ai une conviction. J'ai une conviction que ça va admirablement bien se passer. J'ai une conviction qu'ils vont vous aimer. Non ? Et j'ai une conviction que vous allez les aimer. J'en suis même un peu jaloux des fois. Mais j'ai une conviction que l'œuvre de Dieu va se poursuivre. avec votre serviteur bien-aimé, Stéphane et Jérémie. 2 Timothée chapitre 4, verset 5, donc les convictions sont là en ce qui concerne le salut et les convictions sont là en ce qui concerne le service et le ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi. Le mot accompli, c'est le mot conviction. Et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi. Afin que cette conviction aille jusqu'au bout. Le mot accompli, c'est conviction. C'est difficile de le remplacer par le mot conviction, mais c'est cette conviction dans le ministère qui va permettre l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur et de toutes les œuvres du Seigneur. L'apôtre Paul, on peut dire avant d'être apôtre Paul, il était le persécuteur de l'Église, il était Saul de Tarse. Il était plein de convictions, mais les mauvaises convictions. Il persécutait les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et à travers la parole prophétique et la parole de Dieu sur sa vie d'Ananias, le prophète, alors il va avoir cette conviction qu'il va être un instrument de Dieu pour évangéliser les païens et le monde entier. Et une grande partie du monde. Actes chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc lorsqu'il était en souffrance, lorsqu'il était dans la disette, lorsqu'il était dans les naufrages, lorsqu'il était dans les luttes, dans les combats, dans les difficultés des églises, dans les difficultés financières, dans toutes les difficultés qui ont jalonné son ministère, dans les coups de fouet, dans les coups de bâton, il s'est souvenu de cette parole, il était convaincu qu'il était un instrument de Dieu et que Dieu allait se servir de lui pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est cette conviction de Dieu que nous avons besoin pour aller jusqu'au bout de notre service pour lui. Amen. Les fruits, et je terminerai par là, les fruits des convictions divines sont multiples. Et on retrouve une dernière fois ce mot dans Luc chapitre 1er. Verset 1er, lorsque Luc introduit son évangile, il dira « Tout ce que Jésus a accompli. » Je voudrais t'écrire « Tout ce que Jésus a accompli. » Et « accompli », c'est le terme « conviction ». Le ministère de Jésus, on peut dire qu'il a été très fructueux. Il a été bien rempli. Et je crois qu'il était rempli de convictions, convictions d'amour, de puissance, de miséricorde, de compassion. Il est allé jusqu'au bout en mourant sur la croix pour nos vies, convaincu que la grâce était plus forte que le péché. Amen. Et les fruits, ça a été la guérison, ça a été la délivrance. Il a souffert et il s'est offert pour que nous aussi, nous puissions emprunter son chemin. Il faut que nous fassions attention à nos convictions. Les convictions qui viennent de nous, les convictions religieuses ou politiques. Mais nous, ce que nous voulons, c'est des convictions du Saint-Esprit. Amen. Des convictions de Dieu directement. Es-tu convaincu de ton salut ? Es-tu convaincu de ton ministère ? Il y a quelques pasteurs au milieu de nous ce matin. Es-tu convaincu que Dieu t'appelle aussi au ministère ? Dieu veut des hommes et des femmes convaincus de leur salut. C'est John Wesley qui, avant d'être ce grand revivaliste méthodiste, n'était pas convaincu de son salut. Il ne pouvait rien faire. Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Mais lorsqu'il a rencontré des chrétiens authentiques et qu'il a été convaincu de péché, qu'il a été convaincu du pardon de ses péchés, il a pu être utilisé par Dieu et il a rencontré un grand succès, entre guillemets. Tout a changé lorsqu'il a été convaincu. Félix Neff, le grand incompris, qui est allé au bout de ses convictions. Personne ne le croyait, personne ne prêtait attention à ses idées. Il allait dans les temples et il voyait la mort spirituelle. Mais il avait une conviction, c'est que Dieu allait l'utiliser. Il est venu dans les Alpes. Attention à ne pas se tromper, la bonne conviction, quand elle vient de Dieu, elle amène au salut, elle amène la joie, elle amène la paix, elle amène la guérison. Amen. Ne nous enfermons pas dans des fausses convictions qui viendraient de nous, qui viendraient de la chair ou de la religion. Mais acceptons et appuyons-nous sur ces convictions de Dieu pour aller au-delà du dictat, au-delà de la persécution, au-delà des pensées humaines et accomplir et remplir notre ministère, notre service, en faisant toute la volonté de Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de conviction? Tout nous est donné pour être convaincus de péché, de justice, de jugement. Que tous nous soyons convaincus de notre salut. Que personne ne ressorte de ce lieu sans cette conviction qu'il est sauvé. Que personne ne ressorte de ce lieu sans cette conviction qu'il est appelé pour servir et pour faire une grande œuvre. Amen. Et de belles œuvres, là où il est placé. Moi, je crois que si vous restez là, c'est que vous êtes convaincu que Dieu vous veut là. Amen. Moi, si j'étais convaincu de cela, je serais encore avec vous. Mais Dieu nous a appelés ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de conviction. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Seigneur, oui, Seigneur, je veux être cet homme de conviction, Seigneur, mais cette conviction qui vient de toi. Seigneur, comme l'apôtre Paul, Seigneur, comme tes serviteurs, Seigneur, non pas nous relâcher face à l'opposition, face aux épreuves, mais Seigneur, nous sommes convaincus, Seigneur, que tu es là, que tu seras toujours à nos côtés, que tu ne nous abandonneras pas, que tu es notre rédempteur, que tu es notre sauveur, que tu es notre bon berger. Merci Seigneur, parce que je sais que tu seras toujours avec mes bien-aimés, que tu seras toujours avec mes frères, avec mes sœurs, tu ne les abandonneras pas parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu l'as montré à la croix. Seigneur, ton sang a coulé pour nos vies et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous sommes tes nouvelles créatures. Merci Seigneur pour ce plan parfait. Merci Jésus pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Merci notre Dieu. Amen.